Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Donc le thème de ce que nous allons lire, c'est le royaume de Dieu allait paraître. C'est dans Luc, évidemment, comme dans Marc, le royaume de Dieu, c'est quand le Christ a stoppé Satan, a arrêté toutes les puissances mauvaises sur la terre, que le règne du péché est fini. C'est le royaume de Christ quand Christ revient, Christ ressuscité. Regardez au verset qui précède, au verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est fondamental. Il y a une œuvre de salut en Christ pour les pécheurs. Bon, maintenant, quand on aborde le sujet du royaume de Dieu, ce royaume de Dieu est dans l'attente de tous les chrétiens de l'époque, du départ du christianisme. Pourquoi ? Parce que c'est l'aboutissement en plénitude du ministère de Jésus. Jésus est venu pour sauver. Donc à un moment donné, il y a une résurrection et on voit tous les sauvés à travers l'histoire humaine, on voit tous les sauvés qui apparaissent devant nous avec Christ. Et on voit aussi ceux qui étaient vivants sur pied, ceux qui restent avec Jésus. Ils sont transformés aussi, ils sont dans la gloire de Jésus aussi. Et puis, ben, si on n'est pas sauvé et que Jésus revient, on n'est pas en gloire. On n'est pas en gloire. Si on est vivant au moment où Jésus revient, on n'est pas en gloire. On n'est pas enlevé, l'Église, on n'est pas enlevé avec le reste de l'Église. On reste sur terre pour les tribulations avec Satan pendant 7 ans. Ça doit être très rigolo. Si vous voulez voir, vous lisez Apocalypse chapitre 6 à 18, au milieu du chapitre 18. Vous verrez comme c'est très rigolo de rester dans ce monde, dans les tribulations avec Satan. Il vaut mieux être en ordre avec le Seigneur. Alors, au chapitre 19, il y a une attente puissante du royaume de Dieu. Chapitre 19, verset 11. Donc Jésus va prendre une parabole pour s'expliquer sur ce sujet, qui est un objet de foi pour nous aussi, tout comme les chrétiens du début du christianisme. Il dit donc qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il s'agit donc de Christ, ressuscité, qui monte au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, psaume 110. Hein? Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'au jour où je fasse de tes ennemis un marchepied. Hein? Tu es prêtre pour l'éternité, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur dit à mon Seigneur, dans le psaume 110, ça veut dire, Dieu le Père dit à Christ, assieds-toi à ma droite. Et tu es prêtre pour l'éternité, tu es donc l'intermédiaire, le médiateur entre les hommes et moi, tu es seul intermédiaire, jusqu'au moment où tous tes ennemis seront dans le marchepied, c'est-à-dire, tu vas régner sur eux. Donc, l'homme de haute naissance, c'est le Christ, et il s'en va d'un pays lointain, c'est au ciel, auprès de Dieu le Père, sur son trône, et se faire investir de l'autorité royale, évidemment, le Christ est roi. Si vous ne percevez pas la royauté de Christ dans votre vie, il vous manque quelque chose. Il faut vraiment un réveil spirituel dans votre vie de foi. L'autorité de Christ est royale. C'est quelque chose que vous devez connaître. Il faut faire l'expérience. On peut s'y refuser. On peut s'y refuser et jouer avec ça. Mais l'autorité du Seigneur est royale. C'est-à-dire que il a une autorité que je redoute et je lui obéis. Ce n'est pas toujours une question seulement d'amour. Alors, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Le 10 est le chiffre de l'imperfection. Je vous le dis franchement tout de suite pour que vous sachiez que les serviteurs sont dans un registre d'imperfection assez notoire. Vous vous rappelez que Jésus a dit « Y aura-t-il la foi encore quand le Fils de l'homme reviendra ?» Donc, ils mangeaient, ils se mariaient, ils buvaient, etc. Ils plantaient des arbres. Matérialisme et jouissance. Donc la foi dans la bouche, sur les mots, et dans le cœur, et sous l'autorité du roi, c'est rare. Même aujourd'hui, c'est très rare. Mais c'est ça que ça veut dire, le chiffre 10. Alors, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, donc de l'argent, une somme d'argent importante, il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est pour dire que c'est des qualités, des dons spirituels, la santé, etc., l'intelligence, du cœur, etc., et des enseignements, et tout, même avoir une église, tout ça, ça fait partie des 10 mines. Il y a un trésor qui est donné, qui est confié, et il va falloir le faire valoir. Pas en rester à ce qu'on a reçu. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Donc, on voit qu'il y a une haine, une obstruction envers Christ, qui est évidente encore dans notre société, dans beaucoup de... surtout en Europe. Et bon, elle est plus dissimulée, par exemple, au Bénin. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils sont nombreux, mais en même temps, ils vont chez le vaudou à côté. Mais ici aussi, hein, plein de chrétiens qui font béni oui oui avec le Seigneur et qui fréquentent le diable dans beaucoup de comportements qu'ils ne devraient pas avoir. Alors, c'est un peu général, et c'est refuser d'obéir, c'est de la haine, hein, en fait, pour l'autorité de Christ, hein. Refuser d'obéir, c'est de la haine. Objectivement, pour Dieu, c'est un acte de haine à son autorité. C'est une offense grave. Lisez les épîtres de Pierre, vous verrez que tout chrétien est appelé à l'obéissance, participant en Christ et obéissant. Bon, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement rare. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc, à la fin des temps, il va y avoir c'est ce problème-là. Jésus, non, on ne veut pas qu'il ait autorité sur ma vie. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est engagé à la suite du Seigneur et qui a produit du fruit, hein, qui a amené les autres à Christ, qui a amené les autres à changer de vie, et qui, ces gens, eux-mêmes, vont pouvoir donner l'évangile à d'autres. Ils ont contaminé, si vous voulez, ce monde perdu de l'évangile. Il lui dit, c'est bien, mon fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Donc il lui donne une autorité. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc c'est l'image d'un seigneur qui, dans son royaume établi, va confier une partie du territoire à quelqu'un pour le gérer, pour avoir autorité en son nom, si vous voulez. Donc l'image du royaume de Dieu que Jésus est en train de montrer, c'est que quand il viendra, qu'il établira son règne, ceux qui sont sauvés ont une responsabilité accru sur cette planète, sur cette terre. Et il faut en être digne. Pas digne, pas dans le royaume. Verset 19, il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » Le linge sert à mettre quelqu'un qui est mort dans la terre, hein. Ok, on a compris ce que je veux dire. Hein. J'ai laissé mourir les dons spirituels que le Seigneur m'a donnés. J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Donc, voilà qu'il déteste Dieu. Parce que Dieu est exigeant, Dieu a une autorité. Il croyait en Dieu, et pour finir, il finit par le détester. Il finit par rejeter son autorité. Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que, à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Donc, pourquoi n'as-tu pas servi dans ce monde, pour l'évangile, afin qu'il y ait du fruit. Hein? C'est ça l'image de la banque. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a 10 mines, et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est une dynamique qu'il faut bien comprendre dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Qui n'avance, recule. Qui ne progresse pas en Jésus-Christ, dans sa parole et dans la sainteté, recule. Il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de stationnement, et ma voiture reste là, je peux m'en aller. Quand je reviendrai, elle sera encore là. Non, elle ne sera plus là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour moi. C'est ça que le Seigneur a dit. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Là, on a une parole extrêmement dure. C'est une parabole. C'est l'image d'un roi humain qui est exigeant. Mais tout de même, Jésus a dit cette parole. Alors, dans l'univers musulman, dans la tendance wahhabiste, c'est-à-dire la plus dure, qui forme les djihadistes, qui enseigne beaucoup de mosquées ici en Europe pour qu'ils soient très durs contre ce qu'ils appellent les chrétiens, parce qu'ils regardent tout le monde ici en disant c'est les chrétiens. Eh bien, c'est pas brillant pour eux. Hein. C'est pas brillant. Et dans les rues de Londres, il y a des prédicateurs musulmans qui disent clairement dans la rue, il faut les égorger. Et la police ne les arrête pas. Nous avons eu des amis qui ont logé ici, qui ont habité 2-3 jours chez nous, qui nous ont dit, nous sommes impressionnés par ce qu'on entend à Londres. Alors, pratiquement ce qui se passe, il y a des gens qui ont en eux la violence, à Londres et autre part, du jugement. Et ils considèrent que le monde chrétien a trahi Dieu et offense Dieu. J'ai chargé un musulman il n'y a pas longtemps, afghan, parce qu'il n'y a plus de bus, rien du tout, je l'ai ramené à Virton, et il a des copains afghans qui se disent chrétiens, etc., il en connaît 2, et qui vivent avec des filles, etc., et qui font déjà un petit enfant. Et pratiquement, ce qu'il me dit, c'est n'importe quoi, en haussant la voix dans l'auto. C'est n'importe quoi, au lieu d'aller voir les parents, de mettre les choses au clair, et de se marier officiellement, avant de vivre ensemble et d'avoir un enfant. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont des principes, des règles pour vivre, pour se marier, pour éduquer des enfants, dans l'islam. Or, ici, nous sommes dans une pétaudière en Europe qui les choque et qui alimente leur colère. C'est l'image de cet homme, parce que il y a des hommes comme ça qui sont en colère quand ils voient qu'on fait n'importe quoi. Et ils pensent que Dieu est en colère, donc ils pensent s'il y a des versets quelque part qui leur disent, ben, il vaut mieux les tuer, hein, il vaut mieux les mettre sur le bûcher, comme ça, on va sauver leur âme. L'Inquisition, c'était ça au Moyen-Âge. On va les mettre sur le bûcher, on va sauver leur âme, ils vont arrêter de pécher. Dans l'islam, les djihadistes pensent qu'ils sont là pour purifier les chrétiens et les juifs qui désobéissent. Jésus est venu, il n'a pas donné le paraclétos, c'est-à-dire le Saint-Esprit, aux chrétiens. Il y a des trafiquants qui ont changé les paroles de Jésus et qui ont mis paraclétos. Et en fait, Jésus avait dit le pyriclétos, c'est-à-dire l'homme du feu, le purificateur, celui qui purifie les chrétiens et les juifs désobéissants. Donc cette idée-là se répand à travers les universités wahhabistes, se répand à travers tous les gars. Moi, j'étais confronté ça à Longwy, hein, c'est pas si loin que ça ici. Dans le ministère, c'est pas toujours marrant, les rencontres. Et c'est clair, il y a des gens, si l'homme blasphème contre Dieu et se comporte mal, il peut être égorgé, tué. Ne rêvez pas, c'est un enseignement qui est dispensé tous les jours à beaucoup de places. Ne rêvez pas, c'est une réalité. Alors, ici, dans ce contexte tout à fait très dur, légaliste, Jésus utilise une parole de ses ennemis. Pourquoi ? Parce que Jésus a pardonné à la femme adultère. Jésus a pardonné au soldat romain qui était un envahisseur. Jésus a guéri la femme syrophénicienne qui avait une autre religion, évidemment. Jésus a a parlé du bon samaritain qui était un païen et qui apprenait. Donc Jésus ne fait pas ça lui. Mais il ne fait pas ça, sauf qu'à un moment donné, il viendra pour juger. Le temps de sauver, le temps de ramener des âmes perdues au Seigneur, à Dieu, le Père, est toujours là aujourd'hui. Regardez au chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais quand nous allons dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, c'est le même Jésus qui vient en gloire. Et il ne faudrait pas toujours mettre la sauce au goût de ce qu'on aime. Hein. Il y a des choses qui sont mises, qui sont clairement mises. Apocalypse, chapitre 21. Chapitre 21, verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » Chapitre 21, verset 6. « Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Vous avez vu. Donc, l'abondance de la vie, donc, t'as 10 000, t'en auras encore 10. T'en as 5, t'en auras encore 5. C'est clairement ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui vainc, qui a la victoire sur son péché, qui sert le Seigneur, qui a une victoire sur son égoïsme, sur son narcissisme, sur son nombril, et qui se met au service du Seigneur, c'est le Seigneur qui a autorité sur lui. Il est dans l'obéissance à son Seigneur. Alors, celui-là, il vaincra. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. La filialité est évidente pour Dieu, Jésus la promet, à celui qui a la victoire sur le péché et qui aime plus le Seigneur que lui-même. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Première mort étant le péché d'Adam et Ève qui nous sépare de Dieu. Eh bien, ils ne se sont pas donnés à Christ, ils ne sont pas convertis, ils connaissent sa seconde mort, c'est-à-dire le jugement final. Mais vous voyez bien clairement que Jésus a deux rôles. Le rôle de sauver, et puis à un moment donné, il y a le rôle de juger. Et il faut faire attention, n'enfermons pas Jésus dans un seul rôle. Il est roi pour celui qui l'aime aujourd'hui et qui lui obéit. Il est juge demain pour ceux qui n'ont pas obéi. Prenons Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Dans l'Apocalypse, il y a deux chevaux blancs. Il y en a un au chapitre 6, c'est l'impérialisme, le cheval blanc. Au chapitre 6, c'est l'impérialisme sur le monde. Cheval rouge, l'utilisation de la guerre et du carnage, c'est tout ce qui se passe maintenant. Cheval vert, l'utilisation des maladies, la provocation des maladies, des bactéries, des virus exprès. Et cheval noir, la famine. Ça, c'est en route. Ça s'annonce. Clairement, ça sera surtout pour les tribulations, mais il y a des signes avant-coureurs. Maintenant, ici, c'est pas le même cheval blanc. C'est le cheval de Christ. Il était venu dans Jérusalem sur un âne, un roi de paix, cheval blanc, c'est le signe de l'autorité et de la guerre en Orient. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête avait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ, ressuscité. Les armées qui sont dans le ciel, donc les anges, le suivaient avec des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Vous avez la description. Donc, quand vous voyez ce texte, qui est aussi dans Ézéchiel, dans d'autres textes, hein, vous pouvez comprendre la parabole que Jésus a donnée dans Luc. N'est-ce pas? La parabole dans Luc contient deux temps, deux époques différentes. Hein, deux époques différentes. et qui n'ont pas été, qui ne s'opposent pas, mais qui s'enchaîneront. Vous vous rappelez où on était dans Luc tout à l'heure? Comment? Luc 19. Et à quel verset on voit que il y a un châtiment? À quel verset?
27.
Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, tuez-les en ma présence. C'est qui? Qui châtie? Ce sont les anges. Il y a donc un jugement final qui a été prêché par Jésus-Christ pour ceux qui ne veulent pas la conversion, qui ne veulent pas. Donc, on ne peut pas faire l'économie dans le message évangélique du jugement final. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'autrement, l'évangile, c'est de la rigolade, c'est de la guimauve. On fait ce qu'on veut. Il est tellement bon. On va lui taper dans le dos sur le ventre, on sera quand même au paradis avec. C'est pas du tout ça, les amis. Moi, je me rappelle, j'avais rendez-vous du côté d'Arlon avec quelqu'un, une dame, et je me promenais, et j'étais séparé, et elle disait, « Oh, je peux avoir des aventures et tout ça. Dieu pardonne, Dieu est bon. » Je lui ai dit, « Tu vas jouer longtemps encore avec ses pieds? Tu crois que ça va durer ?» C'est tout ce que j'ai dit. Un an après, elle avait changé d'opinion. Juste dit un mot ou deux, ça suffisait pour calmer. Mais si j'avais laissé oui, aussi bien elle me courait après. Ou m'emberlificoter dans ses charmes. Non, merci. J'accepte les charmes de Dieu, pas les autres. Alors, vous avez vu qu'il y a un jugement extrêmement important qui est sévère. Alors nous allons dans Jean chapitre 5. Dieu n'est pas un traître qui dit les choses pour nous prendre par surprise. Dieu n'est pas un traître. Il a tout dit clairement. Jean chapitre 5. Ma fille Noémie me disait, papa, il faut un réveil spirituel dans notre église. Où elle va disparaître. Notre Noémie me disait ça hier. Où elle va disparaître. Elle est très clairvoyante, notre Noémie. J'en suis persuadé aussi. Chapitre 5, verset 24. Ah ben, je vais commencer un peu avant. Verset 21. Chapitre 5, verset 21, dans Jean. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous avez vu? À qui il veut? L'autorité royale. Donc, vous vous rappelez dans Apocalypse, la source de la vie. Hein? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez bien que les textes de l'Apocalypse sont clairs. Jésus viendra pour juger. Il est aujourd'hui là pour sauver, et à un moment donné, c'est fini. Tiens, l'heure a changé. Ah oui, l'heure a changé, oui, c'est l'heure d'été. Ah non, c'est l'heure d'hiver. Non, c'est l'heure de Jésus, il arrive. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Rendez gloire à Jésus dans votre vie. Ne jouez pas avec ça. Il vaut mieux être un athée et ne pas venir ici. Il vaut mieux être un athée et avoir bouché ses oreilles pour toujours que de faire ça. En vérité, les athées ne m'effrayent pas, moi. S'ils sont convaincus d'être athées, qu'ils soient athées. Ne m'effrayent pas. Mais quelqu'un qui joue avec la parole de Dieu, volte-face tout le temps, il joue avec quelque chose qui est grave. Et c'est lui qui en payera les pots cassés. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, verset 24, je vous le dis, en vérité, celui qui écoute ma parole, donc c'est l'évangile, qui croit à celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc nous voyons clairement que Jésus offre à celui qui croit en lui la possibilité de ne pas être jugé. Mais Jésus jugera ceux qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas voulu choisir. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc des morts qui entendent, ça veut dire c'est ceux-là, hein, la voisine qui sort, l'autre qui passe, qui fait du footing, l'autre qui va au match de football, qui va au basket, etc., qui monte dans le bus avec moi, c'est des morts. Puisqu'ils sont privés de la vie éternelle, ils sont privés de Dieu. Nous fréquentons des morts tout le temps. Et comme ils mettent beaucoup de parfum, tip-tip, on ne les remarque pas, mais ils sont très morts, en fait. Si vous ne faites pas la pharmacie, les psychiatres, les psychologues, et les voyants, les boules de cristal, les lignes des mains et tout ça, vous verriez quelle tête ils auraient. Parce qu'il y a des simulacres, il y a de la pommade pour cacher tout ça, pour cacher qu'on est mort. Je vous dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un est chrétien et parle du Seigneur Jésus, et qui parle à des morts, c'est-à-dire des gens séparés de Dieu, il leur donne la possibilité d'aller vers la vie éternelle. À nous de prendre notre responsabilité. À nous, à chacun de nous. À chacun de nous. Ça, c'est le réveil spirituel dans une église. Dans chaque croyant, quand il ne démissionne pas de ça. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Si le Fils a la vie en lui-même, hier cet homme-là, pendant 3 heures, qui depuis longtemps fait du magnétisme, fait de la guérison et tout ça, et pourquoi il vient me voir? Il sait très bien qu'il s'est trompé de chemin. À 48 ans, c'est très bien. Pourquoi il avait déjà acheté une Bible comme ça, un mois avant? Et puis tout d'un coup, il y a une exposition, il vient. Parce qu'une copine lui avait dit, tu devrais y aller. Et quand il est tout seul, là, au matin, il est tout seul, tu peux parler avec lui. Hein, parce qu'il n'est pas venu quand il y avait du monde. Il n'est jamais venu, il n'a pas osé. Hein. C'est un peu gênant, des fois. Mais pratiquement, il sait qu'il est mort, lui. Il sait qu'il va mal finir. Il le sent. C'est un homme très sensible et qui analyse les choses. Et donc, il a envie d'aller vers la vérité, vers la vie. Et c'est clair, Dieu ne va pas le refuser. Le Seigneur ne va pas le refuser. Mais moi, je vais faire mon boulot ou pas? Je vais rester dans mon fauteuil, dans mon plumard, à ma TV, à mes occupations, à mes dadas, à ma déprime, à ma mélancolie, à mon narcissisme. Attention, le chrétien est un serviteur de Christ et il donne la vie aux autres. Il amène le salut aux autres, c'est ça le chrétien. Alors regardez bien, ceux qui l'auront entendu vivront. Nous avons un immense privilège, c'est que si nous parlons du Seigneur, surtout si nous le vivons, même qu'on serait sourd-muet, il y a des gens qui le voient. Même si la personne en face est aveugle, elle ressent la présence de Christ. Et elle peut ressentir si quelqu'un n'a pas. Surtout s'il a été dans l'occultisme. Surtout s'il a été dans les trucs spirites et tout ça. Quand il est en présence d'un chrétien, il le ressent. Il le sait. Cette femme-là ou cet homme-là n'est pas comme les autres. Alors, c'est pas le problème de vous poser la question. Pourquoi il veut vous rencontrer? Pourquoi il veut vous chercher? Soit c'est pour vous perdre, soit c'est pour lui ne plus être perdu. Si vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible, c'est pour vous perdre. C'est clair, il vous enfoncera plus bas que terre. Il vous attirera dans le péché. Si vous priez et vous lisez régulièrement la parole de Dieu, s'il vient à vous, il y a des chances que c'est parce qu'il voit en vous un serviteur, une servante de Christ, si haut soit-elle, si petit soit-il, qui va lui apporter les semences de la vie. C'est ça. Et quelqu'un qui a été dans le spiritisme, dans l'occultisme, a des antennes comme les hannetons pour sentir ça. En été, quand je suis sur le tracteur, où je travaille au champ, et mes filles, elles se sauvent, hein. Ils arrivent tous, hein. Il y a 2-3 hannetons, et puis tout d'un coup, il y en a plein. Ça monte dans, ça rentre dans le t-shirt, ça gratte, ça va partout. Et ils s'accrochent, hein. Moi, je rigole quand je vois mes filles qui sautent dans tous les sens. Et elles ne tiennent pas un quart d'heure, il faut qu'elles partent. Hein. Moi, je rigole, quoi. Je rigole. Mais ce qu'il y a, c'est comme ça. Il y a une attraction, comment les hantons sont les infrarouges que vous émettez. Eh bien, si vous avez le Seigneur dans votre cœur, soit l'ennemi va envoyer quelqu'un pour vous enfoncer parce que votre vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, soit Dieu va envoyer quelqu'un, va pousser quelqu'un vers vous. Pourquoi ? Parce que la personne a compris qu'il y avait de la vie en vous qui n'est pas vous. Quand Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 22, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Car j'ai été crucifié en Christ, c'est-à-dire ma vieille nature est morte. C'est ma vie en Christ. Quand ce monsieur hier, je l'ai visité au bout d'un certain temps, il me dit, c'est quand même drôle, quand vous êtes là, je vois un aura autour de vous. Ah bon ? Moi, ça ne me touche pas, vous savez, on pourrait dire que je ne prends pas des galons. Mais je dis, oui, ça se peut, ça se peut. Et vous savez, je vais vous dire, peut-être ce que vous voyez. Romains chapitre 8. Il faut prendre la Bible, il ne faut pas se laisser prendre au nombril, au narcissisme. Il faut montrer à la personne que le moi-je, il n'existe pas. Ce qui compte, c'est la parole. Ce qui compte, c'est la lumière de l'évangile. Alors, il a compris, tiens, celui-là, il va m'apporter vraiment quelque chose. Mais au premier attrape-nigo, si je tombe dedans, je n'apporte plus rien. C'est tout perdu. C'est comme aller chez quelqu'un qui cherche la vérité et c'est accepter un verre d'alcool, par exemple. Ou accepter une cigarette. Cette réunion, cette rencontre est finie. Terminée. Vous ne pouvez pas offenser le Seigneur quand vous travaillez pour le Seigneur en buvant d'alcool ou en fumant. Je vous le dis. Si vous voulez servir le Seigneur, il faut arrêter ces trucs-là. C'est clair, j'en ai fait l'expérience. Rencontre, réunion perdue. Et quand je rentrais et que je priais, le Seigneur me disait « T'as perdu ton temps et tu m'as fait perdre mon temps. » Romains chapitre 8. Verset 28. Nous savons du reste, c'est-à-dire en conclusion, finalement, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas facile d'aimer Dieu dans notre société, hein? Il faut résister à des tas de péchés, à des tas de convoitises, des tas de trucs, hein? Eh bien, pourtant, Dieu dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire, on est les gagnants. Et les autres qui suivent leur convoitise et tout ça sont les perdants. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, c'est parce que le Seigneur m'a appelé. C'est tout. Je n'ai pas d'avantage sur les autres. Le Seigneur m'a appelé. Ça veut dire, il n'appelle pas les autres ? Ben, si, peut-être. 15 jours plus tard, 6 mois plus tard, 30 ans plus tard, ben, ce n'est pas le même carnet dans le rendez-vous. Quand je vais chez le dentiste, chez la dentiste, hein, à Châtillon, il n'y a pas tous les clients de la dentiste à la même heure, le même jour. Elle n'en finirait pas, la dentiste. Non, elle les échelonne sur des mois. Quand je vais chez la dentiste, il y a peut-être quelqu'un dans la salle d'attente qui arrive pendant qu'on est en train de trifouiller dans mes dents. Mais en attendant, tous les clients n'arrivent pas en même temps. Le dentiste, la dentiste, le psychiatre, le chirurgien, l'anesthésiste gèrent leur temps. Parfois même, ils ont une secrétaire pour ça. Eh bien, Dieu a ses secrétaires aussi. Et il fixe un temps pour chacun. Par ici, mon petit gaillard. C'est l'heure de laisser tomber les armes à terre et de venir avec moi. Dans ma vie à moi, ma vie éternelle, et plus dans ta vie foutue. C'est quand même un beau cadeau de la part du grand dentiste, du grand chirurgien, du grand psychiatre, du grand sauveur. C'est un fameux cadeau. Tous ceux qu'il a connus d'avance, parce que Dieu connaît tout, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc voilà qu'on a un frère aîné. Dieu nous appelle pour avoir un frère aîné. Un grand frère avec toutes les qualités. Qui n'a pas le péché d'Adam et Ève. Il n'est pas sous l'autorité de Satan. Un grand frère comme ça, on ne crache pas dessus. Alors, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc à un moment donné, on se sent appelé. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, pardonner les péchés et déclarer juste. Gratuitement, c'est une grâce. Maintenant, je te pardonne tes péchés. tu peux rentrer dans mon royaume. Parce que mon fils Jésus est mort sur la croix, il a porté tes péchés. Aujourd'hui, tu as pris conscience. Tu choisis, oui ou non. Tu te laisses conduire par mon Saint-Esprit, oui ou non. Par ma parole, oui ou non. Tu abandonnes le vieil homme, la vieille nature, oui ou non. À ce moment-là, regardez bien, la personne est justifiée, déclarée juste. Et ceux qui l'ont justifiée, ils sont aussi glorifiés. Donc la personne qui est vraiment sauvée est glorifiée. Si la gloire de Christ est sur quand il va travailler au Luxembourg, il est en salopette, il a des taches partout, il a un mètre, les godasses un peu mal foutues, il a mal au dos, ou il va travailler, il va sur l'escabelle, oulala. La cliente, luxembourgeoise, ou allemande, ou le client, il voit que son plafond fini, lui, son mur peint. Mais tout d'un coup, il se dit, mais il n'est pas comme les autres, celui-là. Mais je vais un peu observer ce phénomène-là. Et au bout de quelques jours, je dis, mais monsieur, vous n'êtes pas comme les autres, j'en ai déjà eu des autres ici à la maison, qu'est-ce que vous avez de spécial? Ça m'intrigue. Et vous pouvez répondre que la gloire de Christ vous accompagne. C'est pas la vôtre, c'est pas votre gloire. C'est pas votre moi-je. C'est pas un mérite que vous avez. La gloire de Christ vous accompagne. La gloire de Christ est sur moi. Comme dans l'Égypte, quand ils sont sortis, la gloire était sur le peuple. C'est pas le peuple qui était meilleur que les autres, c'est la gloire qui était meilleure. Si vous revendiquez que la gloire de Christ est sur vous, ce n'est pas une vantardise. C'est simplement que vous n'êtes pas tout seul. Tout à l'heure, on a chanté ça. Non, jamais tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez le dire aux personnes. Quand je suis sur mon escabelle et que je tiens mon pinceau, Dieu pourrait tirer l'escabelle, je me tiens mon pinceau. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est que la gloire de Christ est sur moi. Par exemple, j'ai mal aux dents. Hein, je suis une femme kurde, j'arrive en mitouflé, j'ai mal aux dents. Si je regarde cette femme kurde qui arrive et qui a mal aux dents, où est la gloire de Christ? Avec les yeux habituels, je ne la vois pas. Si j'apprends à fréquenter la personne, tout doucement, je vois que Dieu a fait des choses dans cette personne. Et qu'elle n'est plus comme avant. Plus jamais comme avant. Et que Dieu est encore en train de faire des choses. Et que demain, après-demain, ne sera pas comme aujourd'hui. Et que dans 2 ans, dans 3 ans, elle ne sera pas comme elle l'était maintenant, aujourd'hui, au culte. C'est la gloire de Christ agissant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit sur la personne qui fait la valeur de la personne. Voilà, les amis, qu'est-ce qui est notre valeur? C'est l'action. C'est le don du Saint-Esprit en nous. C'est la gloire de Dieu sur nous, dans nos vies. Pour quel but? La sanctification. On doit émaner. Ah, c'est une aura. Vous rencontrez quelqu'un qui a fait du magnétisme, vous savez, il y a une aura. Vous ne vous laissez pas apprendre à ce jeu-là. Vous pouvez dire, c'est pour moi, que tu choisis ce que tu veux, mais moi je vais te dire, je pense que la gloire de Christ m'accompagne. Pas que je suis meilleur que les autres, mais parce que je me suis laissé transformer par Christ. Et alors, vous avez ici une explication de ce texte. Il les a aussi glorifiés. C'est pas seulement après la mort, hein, à la retour de Jésus. Nous sommes sous la gloire de Christ aujourd'hui. Bon, à titre d'exemple, prenez l'épître de Pierre et j'arrête aujourd'hui. L'épître de Pierre, c'est après Hébreux. Hein. Il y a 2 épîtres. Vous allez dire, mais quelle épître? Dans laquelle il va? Ben, d'abord, après Hébreux, il y a Jacques. Et puis, il y a bien sûr, il y a 2 épîtres. Alors, dans une des épîtres, il est clairement expliqué que nous souffrons. Et oui, nous souffrons. Et c'est pas marrant. C'est pas marrant, on souffre. Dans les chrétiens, c'est pas toujours la planque. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Il y a quelque chose qui se passe malgré nous, à travers nous, c'est la gloire de Christ. Vous connaissez ce verset? Si vous avez déjà lu un petit peu l'épître de Pierre, vous pouvez le trouver assez facilement en regardant un petit peu. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, vous voyez qu'on a des motifs. On a des motifs de ne pas démissionner. On a un immense cadeau. C'est ça l'histoire des mines. Si vous savez que vous avez reçu 5 mines ou 10 mines, c'est ça les mettre en valeur. C'est de ne pas reculer. Si vous enfouissez ce que vous avez reçu et que jamais ce n'est en œuvre, vous n'en aurez pas 5 de plus ou 10 de plus. Vous allez connaître le jugement de Dieu. Mais si vous vous engagez pour le Seigneur et que vous êtes au service de la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur est sur vous. Donc, vous n'avez plus à écouter vos peurs, vos intérêts, votre besoin de valorisation ou votre timidité. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes chrétien, devant quelqu'un d'arrogant ou de gentil, c'est la même chose pour vous, ça ne doit rien changer. C'est l'Esprit de gloire qui est sur vous qui doit le toucher. Il faut sortir du moi-je, du narcissisme. Et c'est l'œuvre de Dieu de vous utiliser, de m'utiliser, que ce soit un méchant ou un gentil en face de soi. Que ce soit un accueillant ou un qui remballe tout. Si vous croyez que c'est l'œuvre de Dieu, l'Esprit de gloire qui est sur vous, il ne faut pas reculer. C'est un acte de foi. Naturellement, est-ce qu'il faut parler ? Ça, il faut avoir l'humilité de demander au Seigneur, est-ce que, Seigneur, c'est aujourd'hui que je dois parler? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Simplement être patient? C'est pas évident. Il y a une sagesse à avoir. Et cette sagesse, elle existe. Si nous ne cherchons pas la sagesse de Dieu pour manifester la gloire de Dieu, nous allons agir comme des fous, comme des fanatiques, et foncer tête baissée. Mais si nous replions les voiles tout le temps et nous n'avançons jamais avec la gloire de Dieu, c'est grave aussi. Ça s'appelle une vie de mensonge. Il faut faire attention, les amis. Je dis tout ça parce que je pense que notre Noémie, qui a 19 ans, et qui pense vraiment, qui aime le Seigneur, qui fait l'institut, elle pourrait se dire, moi je ne le fais pas, hein. 3 ans, les 2 autres l'ont fait. Si elle veut porter des fruits, si lui veut porter des fruits, il faut consacrer du temps au Seigneur. Il faut se donner au Seigneur. Et apprendre la parole de Dieu en profondeur. Vivre avec le Seigneur, avoir une communion avec lui. Et aimer, se mettre à disposition de l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire de Dieu. Les Hébreux dans le désert n'ont pas voulu servir le Seigneur. Toute cette génération-là est morte dans le désert. Il n'y en a que 2 qui s'en sont sortis vivants, c'est Josué et Caleb. Est-ce que quand Jésus va revenir de l'église, il n'y en a que 2 qui sont revenus, tous les autres non. Moi, je ne le souhaite pas en tout cas. Il faut avoir part aux souffrances de Christ. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Mes bien-aimés, chapitre 4, verset 12. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas l'épreuve à cause de problèmes que j'ai allumés moi-même, hein. De famille ou d'argent, c'est pas c'est ça. Ça, c'est des épreuves humaines. Même les athées en ont. C'est des épreuves à cause du motif qu'on a accepté Christ. Hein. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'est-ce qui impressionne ce monsieur musulman qui m'a menacé de mort il y a plusieurs années? Chaque fois que je le rencontre, c'est pas moi. c'est l'Esprit Saint qui le touche. Chaque fois que je le rencontre, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller le voir, je dois lui parler. Est-ce que c'est le jour, Seigneur? Mais je ne suis pas dans l'indifférence et la peur de l'acheter. Je me mets à disposition de l'Esprit Saint et à un moment donné, je sais que bientôt, je vais le trouver sur mon chemin. Et là, c'est le jour. C'était le même problème pour son papa, qui avait fait des sales coups, qui avait organisé des tas de mauvais coups, et qui un jour m'a appelé, et ce jour-là, il s'est donné à Christ. Il s'est donné à Christ ce jour-là. Comment je peux me faire obstacle à la grâce pour cet homme? Un chrétien ne peut pas faire obstacle au travail de Christ sur la terre pour sauver les autres. Un chrétien digne de ce nom, digne de Christ, est au service de Christ pour gagner les âmes perdues. Ça, c'est le réveil spirituel dans l'Église. Mes amis, voilà, j'ai fait ce que ma chère fille avait à cœur que je dise. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, ou que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est au verset 16. Au verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quel est le jugement pour nous? Se confronter aux autres. Se confronter pour qui? Eh bien, à Christ. Parce que au moment où j'accepte de me confronter aux autres, Dieu sait que je suis avec lui. Dieu voit que je marche avec lui, sous l'Esprit de gloire. Si je ne bouge pas, Dieu sait que je ne suis pas avec lui. En réalité, je ne suis pas avec lui. C'est ça. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, regardez bien, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà, dans cette expo, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Et je souhaite que samedi prochain, ou le samedi d'après, fasse une journée de jeûne et de prière pour toutes ces personnes-là. Ce qui n'empêche pas de le faire aussi chez soi. Pour que le Seigneur agisse dans la vie de ces personnes. Autrement, nous avons fait une exposition qui nous aura coûté 3 000-4 000 euros, peut-être plus, pour rien du tout. Pour du vent. C'est le Seigneur qui doit conduire son Église et l'Église doit être conduite dans la prière, dans l'intercession pour le salut des âmes. Autant que dans le témoignage. Alors, les 3 000-4 000 euros que le Seigneur a donnés sont précieux à ses yeux et il les rend à l'Église d'une autre manière. Il les rend à l'Église d'une autre manière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, réveille-nous. Comme tu le dis dans l'Épître aux Corinthiens, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Seigneur, c'était au début du christianisme, dans les années 55. Mon Dieu, 2000 ans après, réveillons-nous, Seigneur. Donne-nous le réveil, car nous dormons bien souvent. Nous faisons comme si les autres n'allaient pas vers l'enfer. Nous vivons comme si ce n'était pas important qu'ils se perdent. Nous ne prenons pas les armes spirituelles pour combattre les apparentes victoires de Satan. Nous laissons faire les méchants. Nous avons peur ou nous mentons. Seigneur, chasse loin de nous toute lâcheté, tout mensonge. Donne-nous un cœur convaincu, un cœur généreux. Un cœur qui obéit, un cœur qui t'aime et qui veut des âmes au ciel, comme toi, ton fils Jésus. Amen. Amen.